Materia. Ars materia.
Ars materia. Savoir-faire.
Habileté.
Qualité de celui qui sait.
Qualité de celui qui sait.
Matériau.
Materia.
Art.
Matériau.
Savoir-faire.
Essence des choses.
Principe.
Art. Matière.
Science.
Ars. Habileté. Savoir-faire. Essence des choses.
Ars. Materia.
Un artiste. Un matériau, un savoir-faire. Ars Materia, c'est l'histoire de cette rencontre. Aujourd'hui, Audrey Balakino nous accueille dans son atelier collectif La Batterie, situé à Gigors, à quelques kilomètres de Cré. Si elle vit maintenant dans la Drôme, Audrey Balakino est née et a grandi dans un petit village des Vosges. Et c'est en travaillant la terre, d'une manière tout à fait singulière, qu'elle va à la rencontre de son passé et de ses origines siciliennes. Dans notre entretien, il sera question de baroque et de rococo, d'une salle de rock, d'un esprit frondeur et révolutionnaire, de profane et de sacré. Mais tout commence par une soupe à la tomate.
Sta italiano perché d'inglese dà la pela la la ah.
Alors, soupe à la tomate. L'extrait qu'on vient d'entendre, qu'on a appelé Olivier et moi, Olivier étant mon compagnon, Volcan, est un extrait qui a été enregistré en Sicile il y a 3 ans de cela, lors de notre voyage en Sicile, qui est arrivé juste avant que j'entreprenne ces 3 dernières années sur le travail lié à l'héritage, à mon héritage lié à la Sicile. Et du coup, cet extrait, c'est... on était à un moment, on avait dormi au bord de la mer dans notre voiture, une Cinquecento. Et quand on s'est levé le matin, on a été accueillis par la famille juste à côté, qui avait une maison juste à côté de la mer. Et qui nous apportait un café et qui était précisément en train de préparer une soupe à la tomate, qui est une préparation traditionnelle donc à cette période de l'année, en été. Et du coup, tout était en ébullition, la famille était en ébullition. Et puis, je voyais cette grand-mère essuyer ses mains sur son tablier, tout le monde qui était affairé autour du feu, autour de la tomate, ça donnait des couleurs incroyables. Puis, on ne comprenait pas grand-chose, parce que tout était dit en italien, mais en même temps, c'était un partage très humain et très fort, et du coup, qui est très significatif de mon travail et du point d'origine de mon travail, puisque il y a 3 ans de cela, je me suis engagée sur un projet lié à la, d'une certaine manière, à la quête de mes origines. C'est-à-dire qu'à travers la céramique, qui est mon médium, j'essaye de revisiter un héritage qui est celui de mon père, qui est sicilien, et qui m'a été légué, mais plutôt légué inconsciemment, étant donné que lui, a, comme beaucoup de Siciliens et d'immigrés à cette époque-là, lui a essayé de tout lisser et de tout oublier. En
pour
fait.
Favoriser l'intégration.
Exactement.
Sur le sol français.
Oui. Donc, son prénom a été francisé. L'italien ne nous a jamais été appris, mais on est quand même parti bien souvent en vacances en Italie les étés, dans cette maison de famille à Licata, donc dans le sud-est de la Sicile. Et du coup, à un moment, j'ai bien senti que j'étais fort habitée par ces racines-là et que c'était très constituant de ma personne. Et j'ai eu envie de refaire le trajet vers cette part inconsciente ou un peu oubliée de moi-même, mais j'ai voulu la faire assez librement par le biais de l'art et du coup la faire de manière fantasmée. Pour moi, ça allait de recomposer cette part manquante pas de manière très documentaire et de faire ça en m'amusant, quoi. Donc voilà, la terre, ça a été un bon moyen de revisiter le baroque et ses origines-là. Et aux prémices de ça, il y a eu ce voyage en Sicile qui m'a permis de rafraîchir ma mémoire concernant pas mal de choses et pas mal de thématiques.
Du coup, la rencontre avec la terre, ça coïncide avec cette quête, cette recherche de racines.
Alors, la terre, ça fait 10 ans que je suis familière de la terre. Et pendant ces 10 années, il y a eu 2 grandes formations. Une de 9 mois où j'ai appris le tournage en série. Du coup, c'était une formation exclusivement technique et très traditionnelle, très artisanale, qui s'est passée au cœur de la Puisée en Bourgogne, dans la Nièvre, à Saint-Amand-en-Puisée, où il y a le CNIFOP, qui est une école qui brasse pas mal de gens chaque année et qui, justement, transmet vraiment quelque chose lié à la tradition, à quelque chose de très humble, et où là-bas on trouve encore toutes les manières un peu anachroniques en fait d'aborder, mais qui sont à mon sens très importantes de revisiter aujourd'hui, hein. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui dans la céramique s'intéressent à ces manières d'envisager la terre, c'est-à-dire les fours à bois, le fait de glaner la terre sur place, enfin quelque chose de très, en fait, qui va à contresens de notre société, hein, qui est très lent, qui implique une temporalité complètement hors du temps social, avec des cuissons qui sont très lentes, le glanage de chaque matériau, du bois, etc. Enfin, c'est peut-être une vision un peu romantisée que je donne là, mais en tout cas, c'est par là que je suis rentrée dans la terre, par quelque chose de très proche des éléments. Et je crois qu'on rentre tous dans cette pratique avec la fascination pour ça, en fait, pour quelque chose qui vient de très loin, d'un peu archaïque. Qui est lié, donc la terre c'est quand même lié à quelque chose d'un peu originel, même dans la mythologie, quoi. Et il y a quelque chose au départ avec ce médium qui est pas loin d'une petite thérapie en fait. Quand on rentre là-dedans, forcément on vient brasser notre mémoire personnelle, la tradition potière, enfin tout un bagage. Tout un bagage qu'on se trimballe et puis duquel je me suis largement détachée depuis, mais qui a été un peu fondateur. Et puis voilà, après cette formation qui a eu lieu peut-être il y a 7 ans, je suis passée par la Maison de la Céramique comme beaucoup d'autres à Dieulfi, et où là c'était plus un axe de créatif en fait, où il s'agissait de définir une profession, une recherche artistique et de rendre ça, c'est pas que c'était très concret avant, mais de rendre ça plus proche de moi en fait, plus et puis surtout de ma pratique professionnelle, ouais. Et ça c'était il y a 5 ans.
Donc vous avez fait beaucoup de chemin depuis cette époque-là, et d'ailleurs au sein de votre atelier, là, on perçoit que des choses ont été faites qui s'émancipent aussi d'un aspect simplement utilitaire que peut revêtir le travail de potier, pour aller vers des choses un peu plus exubérantes et qui prennent des formes proches de sculptures.
Eh oui, mais c'est un peu compliqué parce que mon travail, il est un peu hybride. Et j'utilise la Sicile comme fourre-tout parce que c'était mon point de départ, mais c'est bien pratique parce que toute l'histoire de la Sicile du coup me permet d'identifier ma production aujourd'hui et de faire coller des choses qui sont pas censées coller ensemble. D'ailleurs, j'utilise beaucoup l'image de la carte postale pour parler de mon travail et de dire que c'est comme si ma manière d'aborder la création céramique, c'est de recomposer une carte postale un peu librement en collant des éléments qui ne vont pas forcément ensemble. Et effectivement, le baroque, qui est une grande thématique que j'aborde, pour parler de plein d'autres thématiques qu'on abordera sûrement par la suite, mais le baroque est très présent et me permet de faire des objets qui sont issus de la tradition, donc de la tradition potière plutôt utilitaire, où je fabrique des objets qui sont inspirés de l'art de la table, comme des coquetiers, des plats, plein de petits objets, et je les détourne, je les transforme, je les mêle à d'autres influences, en utilisant le baroque comme endroit de la déformation, comme endroit de la métamorphose et puis de la surcharge, du foisonnement, et qui amène les objets effectivement vers une dimension plus culturelle, en empruntant aussi au monde funéraire. En fait, ce que je dis, c'est que je fais un mix entre le funéraire et le culinaire, qui sont deux grandes thématiques baroques très proches de la Sicile. Je mêle des objets funéraires, des objets culinaires, avec des dimensions plus ou moins utilitaires dans chaque objet, et je les mêle dans un espace qui est celui de la table, et du coup, voilà, qui donne lieu à des installations.
On sent que le rapport à la table est important, effectivement, par rapport aux objets utilisés, mais aussi pour exposer votre travail, et tout simplement pour l'exécuter aussi, parce que je crois que vous travaillez sur des tables.
Et oui, alors effectivement, le travail de céramiste se fait beaucoup en partant de la table, qui est un espace qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est un espace... de quotidienneté, un endroit, enfin voilà, la table c'est vraiment l'objet domestique par excellence. Et en même temps, je me suis rendu compte pendant ce confinement que c'était vraiment pour moi l'endroit qui rassemblait toutes mes préoccupations, dans le sens où oui, c'est très simple, c'est très modeste, c'est à hauteur de main, on l'utilise tous les jours, on y mange, c'est l'endroit de la réunion, du partage. Mais c'est aussi donc c'est la table de la table de travail pour moi aussi, c'est la table sur laquelle je bats ma terre tous les jours, et c'est aussi mon espace d'exposition, parce que j'avais un peu envie de réfléchir sur ce qu'est un espace d'exposition aujourd'hui, de sortir de la problématique du white cube qui est très présente dans l'art contemporain et qui fait que moi ça me plaît pas trop en fait d'exposer des objets céramiques sur des cubes, sur des plots, je trouve que ça les isole d'une réalité et que je ne comprends pas trop comment retrouver de la proximité et un rapport direct et sensible avec ces objets dans ces conditions-là. Donc voilà, j'ai voulu que la table devienne mon espace d'exposition. J'ai aujourd'hui un principe qui s'est un peu systématisé, qui est la production de tables que je vais exposer dans des espaces divers, galeries et autres, où je produis des tables sur mesure qui vont illustrer des thématiques, des tables funéraires, des tables baroques, des banquets, qui vont représenter chacune des tableaux qui vont être faits sur mesure dans l'espace. Et ce, grâce encore à mon compagnon Olivier, qui est scénographe, qui m'aide à adapter chaque table à chaque espace et à la faire vivre dans les proportions du lieu. C'est aussi un espace donc, de partage, de débat, de discussion, et où on peut faire se frotter des questions comme une question qui m'est chère, qui est la question de la classe, du monde populaire, avec d'autres questions... de la classe sociale, enfin voilà, la question du raffinement, de l'art. Du coup, ça devient pour moi un espace politique de débat, et je m'en suis bien rendu compte pendant le confinement, parce qu'on ne pouvait pas beaucoup se rassembler, et du coup, pour débattre de choses et d'autres, la table était devenue le bon format, en fait, un format confidentiel où il pouvait se passer plein de trucs, et j'ai parlé de rituels, et ça c'est assez important, parce que la table est aussi un espace de sacré, où ont eu lieu pas mal de manifestations religieuses et autres. On a évidemment en tête la scène, qui est la grande table, et puis d'autres tables mythologiques, le banquet. Et c'est vraiment un lieu qui a été largement exploré, exploité dans l'art et dans plein de mythologies. Et du coup, c'est un espace voilà, qui allie facilement l'endroit du domestique et l'endroit du sacré. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'y faire fricoter mes objets funéraires et mes objets de bouffe.
À quel moment dans votre parcours s'est opérée cette prise de conscience de ce rapport si privilégié à la table ? Ça a peut-être été intuitif dans un premier temps et ça s'est manifesté comme une évidence ou ça a été un choix délibéré et raisonné ?
Et oui, alors si le rapport à la terre, pour le coup, était plus instinctif et que je ne sais toujours pas l'expliquer, pour le coup, la table, ça a été assez réfléchi. Parce que à partir du moment où je n'ai plus réussi à vendre mes objets, enfin j'ai jamais vraiment réussi à vendre mes objets dans des marchés de céramique qui présentent majoritairement des objets utilitaires. À partir du moment en fait où je me suis détachée de l'objet utilitaire, il a bien fallu trouver une astuce en fait, j'allais dire, pour pouvoir donner une autre dimension à l'objet, c'est-à-dire sortir de l'objet en tant qu'objet. Et du coup, il a fallu que je pousse vers la sculpture, tout en gardant une référence en fait de mes objets au monde utilitaire et à l'art populaire. Et du coup, pour moi, la table, ça a été l'endroit qui m'a permis d'aller vers l'installation et de donner dans son ensemble une dimension plus grande, en fait, plus d'amplitude, et qui m'a permis de rassembler plus de thématiques. En fait, c'est comme si les objets, ils existent individuellement et on peut les prélever, on peut les extraire de la table comme petites traces, petits vestiges de cette expérience-là, mais la table devient l'endroit de l'expérience artistique où on rentre dans un tableau, on rentre dans des thématiques qui se heurtent, on rentre dans des temporalités qui se heurtent, et aussi dans l'idée, on rentre dans une expérience sensible qui n'est pas seulement visuelle, parce qu'on peut toucher et aussi on peut manger. Ça, c'est aussi une autre dimension de la table qui me permet de glisser tout doucement vers l'événementiel, vers la performance, si on se met à manger. Et c'est ce qui est un petit peu en projet avec la collaboration avec des designers culinaires comme André Hacham. En fait, l'idée étant que de faire de ce grand banquet un lieu d'expérience qui passe par la bouche. Le deuxième morceau du coup de Rita Pavone qui s'appelle La papa col pomodoro, ce qui signifie la soupe à la tomate et qui fait écho au premier extrait sonore. C'est un extrait que j'aime beaucoup, que j'ai d'ailleurs beaucoup écouté dans ma première formation de céramiste à Saint-Amand-en-Puisaye et qui nous ramenait beaucoup de chaleur. On écoutait ça dans la cuisine pour se tenir chaud. Et du coup, c'est un chant un peu révolutionnaire qui était du temps de la Révolution italienne où c'est la soupe à la tomate. Il leur restait des tomates et en fait, ils ont fait des soupes à la tomate parce que c'était leur repas du pauvre. Et donc, ça vient toujours brasser mes mêmes thématiques de créer de la chaleur et de l'enthousiasme autour du peu. Et même si je parle du peu, mais en même temps, mon travail, il n'est pas du tout en... Pour le coup, c'est pas du tout, c'est pas la thématique du peu, quoi.
Oui, non, on n'est pas dans une épure, effectivement. Il y a une relation particulière entre ton histoire, ta famille, la Révolution. Il y a un lien ou c'est quelque chose que tu as développé de manière spontanée et individuelle cette...
Et oui, il y a un lien tout à fait. Mon père étant anarchiste et communiste, venant de la... Enfin, comme, en fait, dans, je ne sais pas si vous avez lu L'art de la joie de Goliarda Sapienza, en fait, je pense que c'est toute cette trempe d'Italien communiste un peu, voilà, et qui est venu ici avec ces idéaux-là et dont je suis l'héritière, mais en même temps, l'héritière dans un milieu bien confortable. Et du coup, comment tout ça nous fonde et nous met en contradiction avec nos réalités actuelles. Donc voilà, moi, je vois bien que ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est comment j'aborde ces thématiques dans des galeries, dans des milieux très riches, et ou comment, du coup, voilà, je me heurte à des réalités moi-même très différentes, quoi. Ça oblige à des grands écarts et ça me ramène à la question de la traduction, qui est pour moi très importante, parce que j'aime bien avoir à traduire les choses, à traduire. Pourtant, je suis très mauvaise en langue, donc je ne sais pas traduire dans des langages différents. En revanche, dans des milieux différents, pour moi, c'est important d'avoir à parler de spiritualité dans des milieux profanes, de pauvreté dans les milieux riches, d'art dans les milieux populaires qui n'ont pas accès à la culture. Tout ça, je sais que ça m'est cher et ça me ramène un peu à ma première vocation, si je puis dire, que j'ai pas évoquée. Mais avant la Terre, il y a eu la littérature et je me destinais plutôt à être professeure de français. Donc j'ai fait des études de lettres modernes. Et dernièrement, d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça aussi, c'était sans doute lié à un héritage, étant donné que, en fouillant un peu du côté des racines, je me suis rendu compte que, à la génération de mes grands-parents, mon grand-père, par exemple, était analphabète, donc n'avait ni accès à la lecture ni à l'écriture. Mmh. Et pareil, je pense, du côté maternel, il n'y avait pas beaucoup d'accès aux lettres et donc encore moins à la culture, mais en tout cas pas accès au pouvoir, à mon sens, que donne le langage. Et je pense que pour moi, du coup, ça a été hyper important de l'école, l'ouverture que ça m'a offert, la littérature en général, tant du point de vue de la poésie et de l'imaginaire que ça a déployé chez moi pour ouvrir les horizons. Étant donné que j'ai grandi dans un petit village de 100 habitants, c'était important de bien s'accompagner. Et je crois que voilà, la littérature, c'était la première volonté de pouvoir m'extraire d'un milieu qui me semblait un peu étriqué et puis de pouvoir pallier à ce qui me semblait être une condition bien injuste de classe populaire, étant issue de milieux plutôt agricoles, qui n'avaient pas accès à une sorte de pouvoir, en fait, une sorte de pouvoir de se faire entendre, de se faire écouter ou de se faire regarder. Voilà. Aujourd'hui, du coup, j'en fais des caisses. Et notamment, une anecdote qui est rigolote, c'est qu'à un moment, je ne signais jamais mes pièces. Et puis, on m'a dit, ça, c'est pas possible. Ça va être compliqué hein, de ne pas signer. Et du coup, je me suis mise à tout signer avec mon nom, donc mon nom italien Balacchino, en or. Du coup, l'or en céramique, ça, c'est vraiment de l'or et ça fait appel à ce qu'on appelle un troisième feu, c'est-à-dire qu'il y a deux cuissons, une cuisson de la terre crue à la terre cuite, mais à basse température, qui s'appelle le biscuit, pour pouvoir après avoir un objet un peu solidifié, mais encore poreux, qui permet un traitement de la surface avec l'émail. Moi, j'ai un gros travail d'émail qui est très important. L'émail que j'utilise comme une espèce de matière culinaire, une grosse crème qui vient recouvrir tout le décor. Et du coup, je fais donc, suite à cette deuxième cuisson qui s'élève chez moi à 1280 degrés, dans un four électrique, puisque j'utilise la porcelaine, une porcelaine que je sous-cuis, du coup. Mais du coup, je fais appel donc à une troisième cuisson pour ma signature. Alors, ce qui peut paraître être un peu un truc absurde, un peu chichiteux, mais pour moi, ça a été important à un moment, parce que je crois que j'avais besoin de redorer mon nom par rapport à cette histoire. Voilà, d'héritage.
Vous avez évoqué donc le processus de fabrication des pièces, ou avec ces cuissons, le travail de la terre, donc de la porcelaine, et puis les couleurs que vous venez appliquer par-dessus. Est-ce que vous avez une méthodologie dans votre travail qui se répète, ou au contraire, chaque pièce apporte son lot de spontanéité dans la mise en œuvre?
Dans mon processus de travail, du coup, ça répond toujours aux mêmes problématiques. Hein. Ça tourne un peu en rond, mais je trouve aussi beaucoup de liberté à travers je ne sais pas si c'est des contraintes, mais en tout cas à travers ces choses-là. C'est-à-dire que, comme je le disais, je viens d'une tradition plutôt liée à l'objet utilitaire. Et du coup, il y a aussi toujours la thématique de la Sicile. Je situe toujours parce que c'est hyper important. La Sicile, ayant été une île très colonisée, elle a donné lieu à des influences très mixtes au niveau culturel, c'est-à-dire que dans l'architecture ou dans la culture se mélangent beaucoup de choses. Et du coup, moi, ça me permet de me donner des autorisations pour mélanger beaucoup de choses. Donc cette mixité, je me la suis appropriée au sein même du processus créatif, où en fait, tout est tout le temps hybride. C'est-à-dire que oui, je fais des tasses ou des coquilles ou des objets qui partent de formes utilitaires, qui sont donc tournées avec un tour électrique. Et puis, je pars de moules qui sont soit réalisés par moi-même avec des objets recueillis en Sicile ou ailleurs, des objets qui sont liés à cet héritage d'art populaire sicilien, comme la tête mort, M-A-U-R-E, la tête mort qui représente un visage de roi ou de reine, colon, qui sont les figures présentes en Sicile, du coup des rois colons qui sont venus envahir l'île et qui aujourd'hui sont employés pour mettre du basilic comme pot et qui sont vendus massivement aux touristes. Donc c'est un peu l'ironie de l'histoire. Donc ces petites figures-là, je les moule. De même que j'utilise des moules qui sont plutôt utilisés pour la pâtisserie. Enfin, tout un lot de petits moules qui vont me donner des figures végétales, des figures humaines, et que je vais mêler à des choses modelées, plus ou moins déformées, comme des fleurs que je vais faire plutôt avec des techniques à la main, des techniques très naïves et très spontanées, qui sont empruntées aussi aux techniques pour réaliser les couronnes funéraires, les fleurs des couronnes funéraires et tout ça. Donc j'utilise un peu toutes les techniques en fait. Et puis des techniques qui sont plutôt liées à la sculpture, des techniques qui sont plutôt liées à des productions de série. Et en fait, mon travail, il va résider dans ces endroits de mariage où tout est mélangé tout le temps, à tous les endroits. Chaque objet porte en lui une forme d'hybridité. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop. On ne sait jamais trop si un socle est un socle qui ramène plutôt au monde de la sculpture, ou si c'est plutôt un objet utilitaire. J'utilise des beurriers pour faire des socles. Les beurriers deviennent des choses étranges qui deviennent des sculptures, des sortes de boîtes. Les boîtes sont aussi des urnes funéraires. Les tasses sont aussi des petites boîtes funéraires parce que je leur mets des couvercles dessus avec des fleurs qui débordent de partout. Les beurriers deviennent muraux, deviennent des petites consoles ou des beurriers muraux. En fait, tout est une espèce de variation autour de choses comme ça qui viennent tout le temps se mélanger, se transformer et fusionner dans une espèce de magma qui déploie un vocabulaire assez restreint. « assez foisonnant, mais par contre, ça reste des fruits, des fleurs, des choses qui appartiennent à un langage populaire, direct, facilement identifiable, qui font appel à un imaginaire simple et qui n'ont pas besoin d'être traduits, justement, qui peuvent parler à tous les imaginaires qui viennent... Enfin, toutes ces formes, elles sont issues du figuratif. J'aime beaucoup le langage des fleurs et les langages symboliques, un peu comme ça, qu'avaient nos grands-mères. Et ça vient de ça, et je ne veux pas m'éloigner de tout ça, mais je retire la dimension littérale de ces formes-là avec la surface émaillée qui vient recouvrir tout ça avec le noyer dans l'émail comme une crème. J'évoquais tout à l'heure cette espèce de crème dégoulinante qui vient un peu engluer le décor, le rendre moins parlant, lui donner une dimension un peu plus abstraite, un peu plus distanciée. Et puis, pour moi, ça fait comme une archéologie de la forme, en fait. On peut s'y perdre, on peut deviner des choses, on peut aussi inventer des choses. Et du coup, ça vient servir mon discours autour de l'objet. J'aime bien que l'objet devienne un objet d'appropriation et un espace de projection pour chacun, où on peut, à loisir, se perdre. Et du coup, c'est pour ça que je ne dissocie pas les objets utilitaires des objets sculpturaux, puisqu'à mon sens, les objets, enfin en tout cas mes objets sculpturaux, ont une fonction symbolique, une fonction d'objet soit rituel, comme des petits arches qui représentent des petites portes qu'on offre par exemple traditionnellement dans les baptêmes, les mariages. En tout cas, chaque objet pour moi a sa fonction, mais ce n'est pas forcément une fonction pratique.
Nous reviendrons un peu plus tard sur cet aspect de votre travail, la relation entre l'utilitaire et le plus artistique, entre guillemets, hein, tout à l'heure. Je voulais revenir sur la couleur. Alors, nos auditeurs iront voir sur votre compte Instagram votre travail de manière à se faire une idée plus précise. Mais ce qu'on a sous les yeux, là, c'est quand même des choses qui sont... foisonnante, où il y a une dimension de la répétition poussée à l'excès parfois, mais malgré tout il y a ces couleurs qui sont franches et, comme vous le disiez, qui viennent recouvrir l'ensemble des pièces de manière à donner une uniformité à ces choses un peu disparates qui les constituent. Et dans votre esprit, à quel moment la couleur s'impose-t-elle?
Oui, alors ça a été un long cheminement, j'allais dire, pour finalement aboutir à des solutions très simples. Mais comme vous disiez, en fait, il y a une profusion qui peut rendre les objets indigestes ou illisibles. Et du coup, pour moi, la surface, qui n'est pas une surface en fait, qui donne une couleur, une texture, une matière à la forme. C'est pour ça que je ne fais pas de décor dessiné, mais que le décor et la forme ne font qu'un, d'une certaine manière, même si effectivement l'émail vient en tant que surface recouvrir l'objet. Et du coup, la couleur, elle apparaît dans un choix qui est un peu prédéterminé, j'allais dire, parce qu'en fait, j'ai une gamme de couleurs très restreinte. De la même manière que mon vocabulaire se réduit autour des thématiques de la nature morte et voilà, de choses simples, et ben les couleurs, j'en ai trois ou quatre. Enfin, j'ai un rose bonbon qui va avoir des nuances en fonction des températures de cuisson, un jaune citron et un brun. Alors après, il y a un brun temoku qui, lui, est plus transparent et moins opaque que les deux autres, moins crémeux. Et c'est important. Enfin, ça, c'est les trois couleurs de base. Après, j'en ai d'autres, comme un jaune crème ou un vert lacvosgien. Et en fait, dans l'idée, c'était d'avoir des couleurs très plastiques, donc qui font appel à l'imaginaire culinaire, hein, en tout cas qui nous éloigne un peu de la terre, dans la dimension un peu terreuse et naturelle. Donc plutôt des aplats monochromes, très plastiques, qui sont mis en contraste avec des émaux plus traditionnels, comme le temoku, qui est le brun transparent, qui lui laisse jaillir un peu tous les détails, en fait, qui souligne tout et qui donne beaucoup plus de profondeur à la pièce. Et ce temoku, qui est un émail traditionnel japonais, je l'ai employé parce qu'il est brun et il fait tout de suite référence à la tradition. Il ressemble beaucoup à des émaux valoris un peu désuets. Et j'aime bien faire se mélanger justement ces temporalités différentes qui sont a priori pas très assorties d'un traitement très, très contemporain, de céramique contemporaine, avec des choses plus vieillottes et un peu désuètes. Et le mélange est un peu surprenant, mais voilà, moi j'ai un peu basé mon arrangement là-dessus, quoi. Et du coup, oui, les trois couleurs, je veux que ce soit très franc, très direct aussi, comme c'est assez frontal. Et souvent, dans mes installations, je rajoute un fond d'une couleur aussi, un peu de vibration égale. La dernière installation était faite sur un fond bleu un peu virginal. J'appelle un bleu virginal parce que c'est un peu les bleus ciel des églises du Sud. Et du coup, c'était assez violent pour l'œil. On sent que toutes les couleurs vibrent un peu trop fort. Et on ne sait pas trop si c'est appréhendable. Mais moi, j'aime bien jouer avec cette frontière là, en ne sachant pas si c'est attirant, répugnant, dégoûtant, digeste ou pas, quoi. Je trouve ça intéressant.
La saturation jusqu'au bout, même dans la couleur,
ouais,
en fait. Hein.
Ouais.
Vos installations sont organisées comment avec cette dimension colorée justement? Est-ce que les pièces sont rassemblées par couleur ou bien au contraire se mêlent?
Ouais, il y a des thématiques. En fait, pour que le. On dirait pas, hein, mais parce que je joue de la frontière, mais par contre, à mon sens, ça reste acceptable pour l'œil. Et pour ça, il y a quand même beaucoup de travail de composition. Donc le choix des objets est fait pour chaque installation, pour chaque table, à partir de collections. C'est-à-dire qu'il y a les thématiques couleurs. Toutes les couleurs ne s'assemblent pas quand même. Et même si j'aime créer du contraste et quelque chose d'un peu limite, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui sonne, quoi. Et donc voilà, par exemple, je vais faire aussi une table vert et crème, verte, lac bougien, qui est un vert très miroitant, avec beaucoup de reflets, et un aplat crème plus doux. Et je vais les mélanger, donc ça va me donner une forme d'assortiment. Et il y a aussi des thématiques, c'est-à-dire qu'il y a des gammes d'objets plus funéraires, d'objets affiliés à la barbotine, qui est un objet traditionnel qui m'a beaucoup inspirée. La barbotine, qui est une sorte de nature morte, donc qui représente des éléments organiques, fruits, etc., comme un gros panier de fruits qu'on met sur la table en Italie notamment, une grosse nature morte figée dans de la céramique. Parce qu'en fait, tous les objets que je représente sont toujours inspirés par la tradition et par des traditions populaires qui sont d'habitude faites en faïence. Et ça aussi, en fait, le fait d'avoir fait le choix de la porcelaine, ça joue encore de ce contraste-là, de ce détournement-là, où j'utilise un matériau qui est, dans la tête des gens, noble. C'est-à-dire que la porcelaine, c'est la terre noble par excellence. Mmh. Et j'utilise une porcelaine, pour le coup, qui a cette noblesse-là, une blancheur, des qualités de transparence et de plasticité, mais qui est un matériau noble pauvre, puisque j'utilise une porcelaine industrielle que je vais acheter massivement dans une usine qui s'appelle Seralep et qui me revient très peu cher.
D'accord.
Donc en fait, je joue toujours des mêmes petites astuces, même au niveau technique, quoi.
Seralep, qui sont basés à Saint-Vallier, je crois.
Ouais, exactement.
D'accord. Et la porcelaine, donc oui, c'est plutôt pour la vaisselle du dimanche.
Normalement, oui.
Oui, puis ça montre la proximité du transcendant dans le naturel. C'est-à-dire, il suffit de monter les pieds pour qu'on touche le plafond. Si vous touchez le plafond, bah, vous touchez le ciel. Et si vous touchez le ciel, bah, vous êtes connecté. Donc, c'est pas, ça, je veux dire, le transcendant rôde. Moi, je suis sûr de ça. C'est-à-dire, quand on fait un plan de cinéma, il y a du transcendant qui est plus ou moins là. Et après, c'est comment vous tournez qui se déclenche ou pas. Mais la caméra a quand même une capacité à empoigner le réel, lui donner une petite claque. Et tout de suite, vous voyez tout de suite que le profane, c'est-à-dire bah, l'ordinaire, commence à prendre une petite tournure. Et il ne faut pas deux, trois plans pour vous arriver à autre chose. Hein.
Souvent l'impression que tes personnages ou tes films accèdent à une grâce, mais qui est une grâce qui n'est pas une grâce sacrée, qui est une grâce profane. En fait.
Voilà. Mais ça, j'ai appris ça chez Peggy, par exemple. C'est quelqu'un qui a totalement détruit toute la mythologie politique, religieuse, des lendemains qui chantent, c'est-à-dire de la promesse, de l'avenir, du paradis, tout ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas du tout à demain et qui pense que la grâce est là maintenant et tout de suite. Et qu'il faut la chercher dans le présent et qu'il faut la chercher dans le petit.
Alors, nous venons d'écouter l'extrait d'une conversation entre Olivier Père et Bruno Dumont, et qui a été l'objet d'un documentaire projeté sur Arte ces jours-ci.
Il y est encore, je crois.
Il y est encore, donc on peut le voir en replay. Pourquoi avez-vous choisi de diffuser cet extrait de conversation ?
Ah bah parce que j'adore Bruno Dumont.
C'est une bonne raison.
Je ne sais pas, je ne connais pas l'homme. En tout cas, j'espère qu'il est aussi humain que ce qui paraît dans ses films. Mais ces films, enfin pour moi, ça touche à des thématiques qui me sont chères. Et cet extrait particulièrement auquel je fais référence parle de cette thématique du sacré dans l'ordinaire, qui est une thématique qui m'est vraiment chère, en fait, mais que j'aurais pu aborder avec plein d'autres personnes. Et là, il s'avère que j'étais dans Bruno Dumont et qu'il y a une rétrospective en ce moment sur Arte et que je venais de finir de regarder tous ces films et que je me suis dit, ouais, quand même, c'est chouette de parler des choses simples, de l'ordinaire, des petites choses et d'arriver à leur donner une grandeur. Alors, avec, en l'occurrence, c'est pas un cinéma très naturaliste, hein, ça, c'est quand même très contrôlé, très esthétisant. Il vient de la philosophie, donc c'est pas très spontané, tout ça. Mais je trouve qu'il arrive à sublimer les choses simples à travers une esthétique, moi, qui me touche beaucoup, à travers, enfin, on sent qu'il a regardé beaucoup de peintures et beaucoup de peintures flamandes, et à travers des thématiques. Et notamment, il parle de ce que c'est pour lui la grâce et la sainteté. Et il dit qu'en gros, la grâce, c'est partout. Et la sainteté, c'est en chacun de nous. Et voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu de ça dont je veux parler à travers des petits objets, des petites choses, quoi, des petits coquetiers. Je dis pas que les objets... Mais qu'on peut... Enfin, c'est là, c'est tout près, et que, voilà, c'est pas la peine d'en faire un foin du sacré.
Oui, d'accord. Il remet les choses à leur juste place, essentielle. Il dit d'ailleurs, oui, la grâce est à chercher dans le présent et dans le petit. La grâce est là où on est. En tout cas, le lieu dans lequel je me retrouve est plein de... grâce, on peut le dire, hein. Tellement les choses qui apparaissent sont belles. Comment naît une pièce ? Où allez-vous puiser votre inspiration ? Est-ce que c'est dans les promenades, dans les forêts qui nous entourent, dans la montagne, ou bien en écoutant la radio, ou en regardant les films de Bruno Dumont, je ne sais pas.
Ben ouais, un peu tout ça, en fait. Je pense que c'est en regardant dans les choses du passé. En fait, je pense que c'est beaucoup lié à la mémoire, mais dans les petites choses du passé. C'est-à-dire, ça peut être si bien le coq en opaline qui était sur le buffet de ma tante, ou dans la visite des cimetières, ces objets. En fait, je pense que c'est quand même très lié à l'enfance. Et oui, à ce regard d'enfant qu'on peut avoir sur des grandes choses, sur des grands tableaux, sur des choses qu'on voit dans les cimetières, qui sont quand même des lieux très impressionnants, dans des lieux saints, dans des lieux religieux. J'adore Lourdes, ou tous ces lieux-là, justement, qui sont très grandiloquents et où, quand on les regarde avec un regard d'enfant, je sais pas, en même temps, c'est un petit peu absurde, et on s'attache toujours aux petits détails. En fait, c'est là que je vais puiser mon inspiration, dans ces petits détails qui ressemblent à rien et qui nous amènent à nous perdre et à faire ce chemin, en fait, vers quelque chose de sacré et qui nous élève. D'ailleurs, dans l'extrait, Bruno Dumont, je crois qu'il dit quelque chose comme... c'est en se mettant sur la pointe des pieds qu'on peut toucher le plafond. Et en touchant le plafond, on touche le ciel, mais c'est un peu ça. Et ça, par exemple, la Sicile... et l'Italie en général m'aide beaucoup à avoir ce rapport-là aux choses, c'est-à-dire un rapport très décomplexé, très affectif en fait, et émotionnel, et un peu cathartique du coup, je trouve, où on peut, avec une papillote, un bout de truc ramassé par terre, des matériaux très pauvres, une ampoule, faire un petit hôtel public en plus, c'est-à-dire dans la rue, et que tout le monde va s'approprier cet hôtel, venir y déposer ses prières et puis voir le nourrir, mais avec tout un tas de petites merdouilles. Et je trouve que moi, c'est vraiment ces choses-là que j'ai envie de réanimer.
Alors, vous avez beaucoup parlé du regard que l'on porte sur les choses lorsqu'on est enfant, et beaucoup d'artistes cherche à le retrouver, ce regard d'enfant qui est si précieux. Est-ce qu'il y a dans votre histoire, justement, dans votre passé, des éléments qui sont comme des prémices un peu à l'activité que vous avez construite là?
Et oui, après, il n'y a pas eu la culture comme j'aurais peut-être souhaité l'avoir, mais je l'ai beaucoup critiquée de manière un peu ingrate. Et aujourd'hui, je me rends compte que si, évidemment, il y avait toute la matière, mais pas sous la forme... à laquelle on s'y attend en fait, c'est-à-dire que oui, déjà il y a eu les cimetières qui ont été pour moi une source d'inspiration forte et que mon histoire étant liée à ce qui pourrait sembler un peu morbide, finalement j'ai beaucoup fréquenté les lieux des cimetières et que ça a été du coup un espace de projection fort et qu'il a fallu le réinvestir pas de manière triste, de manière vivante, mais il y avait aussi des cimetières avec les tombes qu'on nettoie, les casse-croûtes qu'on fait sur les tombes, enfin un truc très décomplexé, très justement quotidien. Il y a eu la bouffe, la préparation de la bouffe qui finalement m'a mis comme dans l'extrait de la soupe à la tomate dans des atmosphères bouillonnantes où il y avait déjà du feu. En fait, la céramique, c'est un peu une grande cuisine. Et je vois bien que je fais splatch-splatch et que je patouille un peu dans mes trucs. Comme il y a un truc très d'enfant comme ça. Et puis, effectivement, du coup, il y avait aussi la rivière, la nature, qui fait que j'ai toujours pataugé dans la terre, les grands jardins de mon père. Et puis, la créativité de ma mère, qui quand même, même si elle... ne s'est pas autorisée, elle, à aller vers la création, nous a toujours initiés comme elle pouvait, en fait, avec de la pâte à sel, des choses très simples. L'espace existait, en fait. L'espace de la création existait. Il n'y avait pas de culture comme on l'entend aujourd'hui sur France Culture, quoi. Mais il y avait des petits éléments. Et puis après, je pense que ça, c'est chacun hein, qui lit le réel à travers son filtre. Et moi, j'ai eu les filtres des couleurs. Beaucoup.
D'accord. Donc beaucoup de coloriage, j'imagine. Ou
eh ben non, peinture, bizarrement, ou... c'était non. Des jeux beaucoup plus. Non. Mais par exemple, je pense que j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec mes yeux, c'est-à-dire à un peu de manière neuneux, à me poser dans un coin et à regarder les choses, mais en faisant des jeux visuels, c'est-à-dire en fermant un peu les yeux, en brouillant un peu la vision, en regardant les couleurs bouger. Vraiment, c'était des choses un peu très contemplatives et un peu expérimentales. Et en faisant des petits bouquets miniatures. Ouais, je crois que ça a été hyper important. Il n'y avait pas grand-chose autour de chez moi, mais il y avait cette nature-là qui m'offrait le loisir de créer tout un monde un peu grandiose avec trois bricoles, quoi. Et c'était ça, des petits bouquets, les yeux plissés, puis ça, c'était bon, quoi. Enfin, je dis ça, on dirait que vraiment, j'ai eu une enfance de pauvrette et de Cosette, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein.
Vous allez nous faire pleurer.
C'est clair.
Non, il n'y avait pas question. Donc, les cimetières, du coup, en fait, c'était, j'imagine, plutôt en Italie, lorsque vous retourniez...
Et non.
Non.
C'était à Bazeuil-et-Ménil, dans mon village des Vosges. Parce que je suis née dans les Vosges, en fait.
D'accord.
Et il y a eu une vague d'immigrés italiens dans le nord-est de la France.
Oui, bien sûr.
Et non, j'ai grandi là-bas, au milieu des vaches et des pâturages. Et c'était, ouais. Mais du coup, à côté quand même de l'Alsace. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le baroque, il était partout. Hein. Enfin, que, ouais, il était aussi là-bas, quoi. À partir du moment où on est un peu généreux dans la bouffe et dans les émotions, on n'est jamais très loin de l'Italie, quoi. D'accord. Ce qui était le cas chez moi.
Okay. Et du coup, alors, c'est là que vous avez découvert la couleur vert lac vosgien. Moi, je ne connaissais pas ce terme. Mais...
Non, c'est inventé. Hein.
C'est inventé, d'accord. Ouais. Pour revenir à l'inspiration, alors concrètement, ça se passe comment maintenant? Quand vous travaillez, vous avez une commande, vous avez un lieu d'expo, un projet, une sollicitation extérieure, ou alors au contraire, non, les choses naissent de vous?
Bah, ça dépend. Hein. Des fois, il faut s'y coller et aller puiser l'inspiration. Et du coup, elle vient aussi par les oreilles, dans le sens où j'ai toujours un casque sur les oreilles, donc des podcasts, des émissions.
France Culture, là,
ouais.
Pour le coup.
Les France Culture, mais il y a aussi des podcasts, beaucoup de podcasts féministes, des choses comme ça. Et d'une certaine manière, je pense que... Le matériau de la terre, c'est vachement pratique parce qu'on peut tout y mettre. Enfin, ça vient détendre. Enfin, je pense qu'il y a un truc un peu kinesthésique. On peut vraiment lâcher à travers les mains tout ce qui nous traverse dans les yeux ou dans la tête. Ça, c'est très pratique. Après, ça donne pas forcément des formes... Enfin, c'est pas un défouloir non plus. Donc, je dis pas que ça donne des formes intéressantes, mais quand même, vu qu'il est question de toucher, on peut chercher à prendre des contre-pieds avec des gestes répétitifs, rassurants, des choses qui tournent, qui demandent beaucoup de centrage. Le tournage, ça demande, c'est presque méditatif, ça demande de se centrer beaucoup. Des gestes qui sont plus défouloirs, très enfantins, qui donnent de la douceur. Moi, ma terre, elle est très douce à toucher. Enfin voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et après, je ne travaille pas sur commande, mais parfois on me dit « Bon, bah là, je voudrais bien que tu me fasses une crèche pour Noël, donc je vais faire une crèche et puis je vais me lancer dans la thématique de la crèche. » Et en fait, ça tombe bien parce que j'aime bien. Ou alors, il y a une expo qui va avoir lieu et le galeriste va me demander de pousser un peu plus vers la sculpture, d'approfondir des pistes qui sont déjà abordées. Et là, ça va m'obliger à retomber dans la recherche, dans l'expérimentation. Et sinon, moi, régulièrement, vu que j'aime bien renouveler ou refoutre un peu le bordel dans tout ça, j'aime bien avoir des choses rassurantes à faire et à répéter, avec toujours des petites variations, mais quand même qui sont assez... faire des coquetiers ou faire des tasses, même si elles sont délirantes et fantasques, ça reste rassurant. Faire de la sculpture, c'est une autre histoire, je crois. Et là, du coup, ça demande d'avoir du temps, de pouvoir renverser les choses à l'intérieur de soi et puis d'avoir l'espace, la matière et l'espace pour pouvoir surprendre un peu sa vision, quoi.
Et ça a toujours existé dans votre travail, cette volonté de se laisser surprendre et d'aller vers autre chose qu'un objet utilitaire aussi fantasque que soit-il.
Ouais, ça a toujours été. Mais après, il y a une personne qui s'appelle Marianne Castelli et qui est une artiste qui m'est hyper chère, qui est céramiste dans la Drôme et qui fait une sculpture magnifique. Elle m'a beaucoup accompagnée dans ce processus-là, ouais, de comment on fait pour...
se détacher.
Ouais, se laisser surprendre, quoi. Ouais. Et puis, aborder le chaos, un peu. Comment on aborde le chaos et qu'on réordonne tout ça dans une forme d'organisation qui est très singulière, quoi.
No.
voilà le dernier morceau que Audrey Balakino voulait nous faire écouter, donc qui est un morceau qui s'appelle La vie est belle, Vita Bella en langue originale. Donc un morceau avec des guitares anti-ablées où il est question de minuit en plein jour, de cerises, de pâtes et de haricots. On y revient toujours décidément à l'alimentation.
C'est sûr. Ouais, et c'est une tarentelle. Il me semble que c'est une tarentelle. En tout cas, je ne connais pas bien ce genre musical, mais je trouve ça assez fascinant, ces questions-là de musique cathartique aussi.
D'accord, alors nous sommes ici dans un lieu, l'heure où nous faisons ce petit entretien, il ne fait pas très chaud parce que vous n'êtes pas en période de production. Vous êtes plutôt en période jachère, comme on dit.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu, puis éventuellement de votre actualité ou de projets que vous auriez pour l'année 2022?
Mmh. Effectivement, là, l'atelier est dans une phase étrange, c'est-à-dire que je viens de ramener les différentes expositions, notamment il y en avait deux qui avaient lieu à Milan et que j'ai ramené la semaine dernière. Et du coup, quand c'est comme ça, les étagères sont saturées, il y a des caisses de pommes remplies de pièces partout, un peu autour de nous. Et c'est un lieu collectif qui est autour de nous. En fait, c'est un ancien poulailler qu'on a investi il y a 2 ans de cela, 2 ou 3 ans, avec, on est 5, donc avec 4 copains, dont une amie qui m'est très chère, qui est céramiste aussi, 2 autres amis, qui est céramiste, il y a 2 autres amis, Jules et Juliette, qui sont un plasticien, une paysagiste. La première amie dont j'ai parlé s'appelle Léa Brodier, avec qui on se suit depuis la première formation. Donc, c'est une grande histoire d'amour-amitié. C'est très chouette. Et il y a aussi mon compagnon, Olivier, qui est scénographe et qui est à côté de nous avec son casque sur les oreilles et qui travaille ses maquettes, son pour le théâtre, la danse et tout un autre monde. On a appelé notre lieu Batterie parce qu'on est à côté de Gigor Electric, qui est un endroit bien connu pour son et puis que ça faisait un petit jeu de mots avec l'histoire du lieu, quoi. Puis on a les voisins, Flo le forgeron, Lily et Isa la couturière, Lily qui fait ses dessins, enfin la musique à côté, c'est très vivant. On a la rivière, la scie, qui nous fait face, qui accueille chaque été la scie électrique, qui est une petite guinguette. Et puis, on a la nature qui est quand même très foisonnante avec les montagnes en face, des couchers de soleil pas possibles. Et on a un peu tout ce qu'il faut aux alentours pour avoir le calme et l'agitation quand il faut. Et puis, le collectif, ça demande de jongler pas mal, mais ça donne aussi l'opportunité de...
D'échanger,
ouais,
d'échanger, de se stimuler.
Ouais. De prendre soin en commun d'un lieu, parce que c'est pas évident en fait de rester ouvert sur l'extérieur quand on est dans sa création, mais de toute façon on le voit, il y a vraiment des phases où on est replié sur soi, on a des phases d'ouverture, des phases de mouvement intense, et puis le fait d'avoir à cohabiter avec d'autres réalités, c'est plein de temps qui se frotte, c'est plein de nécessités, plein de gestion d'espace, et je pense que c'est très riche. On aimerait bien créer plus d'événements parce qu'à la base, ce lieu était aussi un lieu d'accueil où on pouvait accueillir des concerts, des pièces de danse ou autres, des expositions dans un espace commun qui est mitoyen aux espaces d'atelier. Et puis là, il y aura normalement des portes ouvertes qui devraient avoir lieu en décembre qui arrive, avec une sorte de soupe populaire. Mais les dates, on peine à se fixer, parce que les calendriers ne sont pas toujours, toujours accordés. Mmh. Oui, en plus, il y a un bébé qui arrive parmi l'atelier.
D'accord.
Une petite Suzanne, donc chacun est dans un temps particulier. Et puis voilà, on s'organise tout doucement.
Donc là, on est à peu près à 20 minutes de Cré, sur la commune de Cobonne, je crois.
Ouais, on est entre Cobonne et Gigor, mais je crois que ça appartient déjà à Gigor et Lauzon.
D'accord,
ouais.
On est à Gigor. Et donc, pour les personnes qui seront intéressées, il faut surveiller, je ne sais pas comment ils pourront avoir l'information, du coup, pour les portes ouvertes.
Oh là là, peut-être sur Facebook, on fera Facebook. Passer quelque chose sur Facebook, ouais.
Du coup, oui, vous êtes en pleine nature et c'est quelque chose d'important. pour vous là, ouais. dans votre parcours aussi, le petit village dans lequel vous avez grandi,
ouais.
les origines rurales. Vous ne ouais. voyez pas travailler en ville?
Je vois bien que mon travail, il a plus de résonance en ville. Enfin, je le vends en ville. Mais quand même, je suis appelée par la ville de temps en temps. J'y vais. Et puis quand j'y vais, je me dis, ouais, c'est génial, c'est foisonnant. Et puis je me rends bien compte que, en tout cas, ça fait partie de mon équilibre personnel là, de revenir à ce calme-là et à la préciosité des échanges que cela amène. Qu'il y a les copains qui sont autour et qui m'aident dans le quotidien, à fixer les prix de mes pièces, à choisir telle ou telle chose. Donc il y a Léa, Jules, Juliette, Lily, Seb. Et puis il y a aussi il y a Totem qui est le propriétaire, qui a sa compagne, qui est une très bonne photographe, qui s'appelle Pascal Cholette.
C'est elle qui photographie vos œuvres.
Ouais, ouais. D'accord. Et en plus, c'est une bonne cuisinière. Donc oh. elle fait la cuisine, elle fait les photos. Et puis à côté, il y a aussi Jérôme qui est retoucheur photo, qui fait la retouche photo, le graphisme parfois. Et puis Olivier qui est toujours à côté de moi. Donc en fait, c'est quand même... ouais, ça, je pense que c'est des réseaux qui sont hyper précieux. Et tout ça peut se faire dans des trocs ou échanges très simples et très généreux.
Merci beaucoup, André Balakino, pour tout ce que vous nous avez dit de votre travail, pour ce que vous avez évoqué de votre histoire et de votre parcours. J'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs d'aller voir de plus près.
Mais l'atelier est toujours ouvert pour les visiteurs, c'est okay. sûr. En plus, du coup, on n'y voit pas que mon travail, mais on y voit les travaux des copains qui sont bien intéressants. Donc là, les prochaines expositions, ce sera pour 2022 et il y en aura une qui n'est pas trop loin d'ici, à Saint-Quentin-la-Poterie, dans la galerie Terra Viva, notamment. Voilà, d'accord. qui est prévue pour le printemps prochain. Après, il y en aura d'autres, mais les calendriers se font maintenant sur plusieurs années. Merci d'accord. Jean-Luc pour l'invitation, en tout cas.
Pas de quoi. À très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Ars Materia, c'est terminé pour 2021. L'année prochaine, nous continuerons de rendre visite à artistes et artisans dans leur lieu de création. Merci à Sylvie, Karina et Clément pour leur soutien logistique, technique et moral.